Bonjour, je suis Sacha Capdevielle et je vous accueille sur la chaîne de podcast de l'Observatoire des sciences de l'univers, Institut Pythéas. Vous entendrez ici des scientifiques venant de différentes disciplines, allant des profondeurs de l'océan aux confins de l'univers, vous parler de leurs recherches et de leurs innovations. Bienvenue sur Immerscience, la science qui résonne, et maintenant, place à l'épisode. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je me trouve aujourd'hui à l'Observatoire de Haute-Provence, OHP, situé à Saint-Michel-l'Observatoire dans les Alpes de Haute-Provence. Dans ce lieu unique où les coupoles des télescopes percent la canopée comme des champignons géants venus d'une autre planète, je retrouve Auguste Levensu et Isabelle Boisse pour retracer avec moi l'histoire de l'OHP, l'observatoire qui en octobre 1995 annonce la découverte de la première exoplanète, nommée 51 Pegasi b, ce qui vaudra à Michel Mayor et Didier Queloz le prix Nobel de physique de 2019. Installez-vous confortablement pour un voyage à travers le temps et l'espace. Décollage immédiat.
Je suis Isabelle Boisse, je suis chercheuse en astrophysique au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Je suis principalement sur la recherche et la détection d'exoplanètes avec des instruments comme le spectrographe SOFI qui est à l'OHP pour mesurer donc le déplacement des étoiles et savoir si elles ont des planètes qui tournent autour.
Bonjour, je suis Auguste Levensu. Je suis directeur adjoint de l'OSU Pythéas et directeur du département OHP, Observatoire de Haute-Provence. Je gère à la destinée un peu les orientations et le fonctionnement du site qui ne concerne pas que l'astronomie, mais historiquement l'astronomie, puisqu'en fait, il faut savoir que l'Observatoire de Provence a été créé juste après la guerre. Et c'était l'un des deux premiers laboratoires du CNRS, Paris, et le site d'observation de l'Observatoire de Paris, qui était donc les premiers laboratoires propres, en quelque sorte, du CNRS. Donc c'est très historique. Donc historiquement, c'était l'astronomie. Et on a développé des activités sur la physique de l'atmosphère dans les années 80 et en écologie dans les années 2009 exactement. L'observatoire a été, jusque dans les années 80, l'un des sites d'observation de français sur lesquels on rencontrait tous les grands astronomes français et européens. Les années 90, il y avait une remise en cause, je vais dire tout simple, de la poursuite des activités dans l'observatoire. Des activités en astronomie, hein, puisqu'en fait, on avait des télescopes qui devenaient petits par rapport à la compétition internationale, puisqu'on commençait, les années 80, à construire les 8 mètres à l'ESO, les 3,60 mètres au CFH, etc. En gros, vous pouvez retenir ça, l'avenir était en cause, hein, il y avait une remise en cause de la poursuite au même niveau des activités de l'observatoire. En astronomie, puisque les télescopes, on a des télescopes qui font 80 cm, 1,20 m, 1,52 m, devenaient moins compétitifs, et 1,93 m devenaient moins compétitifs avec leurs instruments par rapport aux nouveaux instruments qui arrivaient.
Il y a un exercice du CNRS tous les 4 ans, qui est une prospective, on fait un bilan des 4 années de travail, et puis on va regarder qu'est-ce qu'on va faire dans les années suivantes. Il a été rappelé qu'en 1995, quand il y a eu cette prospective, la question, avant de la découverte, c'était est-ce qu'on va fermer l'OHP ? Donc c'était vraiment, cette remise en cause, elle était là dans les années 90, vraiment, pour fermer le site.
C'était même plus qu'une remise en cause, il y avait quand même des rapports, c'était pas des on dit, c'était des rapports qui conseillaient de baisser l'activité de l'OHP. Et le personnel qui était là à l'époque le ressentait assez mal, parce que pour eux, c'était la fermeture de leur lieu de travail, en quelque sorte.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque, les instruments d'observation de l'OHP étaient certes compétitifs sur la scène internationale, mais étaient dotés d'une bonne précision uniquement lors des nuits sans lune, les Dark Nights, ce qui représente extrêmement peu de temps d'observation. Suite à la remise en cause de la poursuite des activités de l'OHP, le directeur de l'époque, Philippe Véron, cherche un instrument d'observation nouveau pour pouvoir observer lors de toutes ces nuits qui jusqu'alors n'étaient pas rentabilisées. La création d'un spectrographe lui est alors proposée, grâce auquel l'OHP aura la possibilité de mesurer la vitesse radiale des étoiles durant toutes les autres nuits du mois. Ce projet de spectrographe haute résolution, nommé Élodie, voit le jour grâce à l'Observatoire de Genève et à l'argent du Conseil de la région PACA. Tout cela se passe évidemment à l'encontre de tous les avis et malgré la situation extrêmement précaire de l'OHP.
En dépit de toutes les décisions, etc., l'instrument a été construit avec des expertises locales. C'est-à-dire qu'à l'OHP, on a toujours construit les spectrographes qu'on utilisait sur le site. Donc il y a une expertise en spectrographie qui était très forte. Et après, comment ça se passe pour observer? C'est-à-dire que vous demandez du temps sur un télescope avec tel instrument, en particulier ce spectrographe-là, et vous avez des temps d'observation, des semaines d'observation en quelque sorte.
Non, mais on a redécouvert que c'était, enfin, qu'avoir un télescope sur lequel on avait du temps, c'était aussi important. Voilà, avoir un 8 mètres, 10 mètres, bien sûr, c'est super parce qu'on on reçoit plus de photons, donc on va pouvoir faire des nouvelles choses qu'on ne voyait pas. Mais avoir du temps disponible pour faire des projets qui sont plus longs en temps parce qu'on a besoin de beaucoup d'observations, ben ça demande un télescope disponible. Et ça, du coup, c'est ce qu'on a pu faire ici. Et c'est ce qui a nécessité des exoplanètes pour être découvertes.
Grâce à l'audace des équipes de l'époque, le spectrographe est créé et un grand temps d'observation est désormais disponible pour permettre aux scientifiques d'observer les ciels lors des nuits où la lune brille. La méthode que veulent alors expérimenter les équipes est celle des vitesses radiales qui permet d'observer le mouvement d'une étoile induit par un corps massif, une possible planète, qui gravite autour d'elle.
Le fait qu'il y ait la planète et l'étoile, les deux vont tourner autour du centre de masse du système. Donc comme l'étoile est beaucoup plus lourde, ce centre, il est très proche du centre de l'étoile. L'étoile fait un tout petit rond sur elle-même, en gros, un tout petit tour, tandis que la planète, elle fait tout le tour de l'étoile. Mais voilà, il faut imaginer que l'étoile fait un petit peu la même chose, elle tourne un tout petit peu, avec la même période que la planète, voilà, en phase. Et c'est ça qu'on cherche à mesurer. Quand on fait les vitesses radiales, on regarde dans une seule direction, c'est la direction entre l'étoile et nous, et donc on va voir l'étoile qui recule un peu, qui avance un peu, qui recule un peu, avec une période qui est celle de la planète qui est autour. Après, voilà, ça peut être aussi l'étoile qui a aussi des... Parce que l'étoile, c'est pas une ampoule lumineuse fixe dans le temps et stable. Une étoile, c'est un plasma chaud qui a du champ magnétique, qui va faire des tâches, qui va varier au cours du temps. Donc, il faut faire attention à ce qu'on observe. D'ailleurs, dans la découverte, il y a eu des critiques au début par rapport à ce qu'on a découvert. Peut-être que c'est pas une planète, en fait. Peut-être que c'est une étoile. Ça a duré un certain temps, quand même, des papiers qui se sont échangés sur « Non, ce n'est pas une planète, c'est des effets stellaires. » Et donc, ça mérite, après, de bien regarder ce qu'il y a dans ce qu'on voit. Mais ça permet de savoir qu'on a une planète qui tourne autour, après.
Mais comment fonctionne ce spectrographe, exactement? Et comment calcule-t-il le changement de vitesse de l'étoile? Eh bien, le spectrographe décompose la lumière de l'étoile comme un arc-en-ciel et permet de voir des raies noires dans ce spectre qui correspondent aux raies d'absorption de certains composants chimiques de l'étoile, ou plutôt de son atmosphère, comme du fer ou du carbone par exemple. Ces éléments absorbent la lumière à une certaine longueur d'onde et provoquent ces traits dans le spectre. D'autre part, on connaît tous l'effet Doppler. Cet effet qu'a la vitesse sur une onde sonore qui fait que lorsqu'un camion de pompiers passe à côté de nous dans la rue, la note que l'on entend avant et après son passage n'est pas la même. Cet effet est le même pour les ondes lumineuses. Lorsqu'une étoile bouge, on verra les raies d'absorption se déplacer. Des calculs pourront alors permettre aux scientifiques de remonter jusqu'à la vitesse de l'étoile et déduire la masse de la planète qui influence la variation de cette vitesse.
Ce qui était remarquable, c'est que le mouvement induit par la planète qui orbite autour de l'étoile était assez très faible. C'est-à-dire que la précision demandée pour pouvoir détecter ce type de planète, c'était de l'ordre d'une vingtaine de mètres par seconde. c'est-à-dire à peu près 70 km/h de précision, sur une étoile qui est à 40 années-lumière. Enfin, c'est 400 000 milliards de kilomètres.
Les précisions des mesures effectuées à l'époque sont certes impressionnantes, mais un autre aspect de cette découverte l'est encore plus. C'est la période de révolution de 51 Pégase B, la première exoplanète découverte. C'est-à-dire le temps que celle-ci met pour faire le tour de son étoile. C'est ce temps de révolution extrêmement court qui a permis aux scientifiques de l'époque de l'identifier. Cette observation nous a poussés à reconsidérer ce que nous pensions savoir sur les planètes. Car à cette époque, nos hypothèses découlaient uniquement de nos connaissances sur le système solaire.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que vous avez compris que pour détecter cette rotation de l'étoile induite par la planète, hein, il faut observer en quelque sorte le mouvement aller et retour dont parlait Isabelle. Le mouvement aller et retour, c'est une période de rotation de la planète autour de l'étoile. Imaginez un extraterrestre qui observe le Soleil. Hein, il faudrait qu'il observe 365 jours pour savoir que l'étoile s'est rapprochée et éloignée, c'est-à-dire une période totale. Et ce qui était remarquable, c'était que la planète qui a été découverte, elle a été découverte pendant une période de 4 jours, c'est-à-dire dans un run, dans un seul type d'observation, c'est-à-dire qu'elle a fait une rotation complète. Et ça, Isabelle pourra en parler plus,
c'est
ça.
Effectivement qu'ils avaient du temps pour observer pendant l'été 1994 et qu'ils ont fait ces mesures. Du coup, ils étaient vraiment en télescope et prenaient les mesures en direct. C'est-à-dire on observe l'étoile, on a tout de suite le résultat de ce qu'on observe. Ils pouvaient mettre les points les uns après les autres, les nuits après les autres. Et donc, ils ont trouvé que cette étoile, elle avait une grande variation de vitesse radiale avec une période de 4 jours et demi. Qui n'est pas du tout attendu. À ce moment-là, tout ce qu'on connaît, c'est le système solaire avec Jupiter qui tourne en 12 ans et puis des planètes telluriques sont plus petites qui sont plus proches de l'étoile. Donc c'est le modèle de système exoplanétaire. Tout découle de là. On explique la formation des planètes en expliquant le système solaire. Donc on n'imagine pas du tout qu'une planète de type Jupiter puisse être aussi proche de son étoile. Donc comme c'était assez curieux, ils n'ont pas publié immédiatement leur découverte. En fait, ils ont attendu de réobserver cette étoile l'année suivante, de reprendre les mêmes mesures, de voir que tout est en phase, de faire des vérifications pour dire non, a priori, c'est pas l'étoile qui fait ça, avant de publier l'année suivante, en 1995, leur découverte. Et on n'attendait pas ça du tout, parce que en fait, il y avait une autre équipe aux États-Unis qui avait aussi un système un peu différent d'instruments, mais qui était normalement aussi assez sensible pour découvrir des exoplanètes, qui prenait des mesures, mais voilà, ce qu'on pensait, c'est trouver des Jupiter à des dizaines d'années de période. Donc, ils prenaient des mesures, mais ils n'avaient pas forcément regardé leurs données. Et en fait, après, quand Michel Magnan et Didier Queloz, ils ont publié leurs découvertes, ils sont allés voir dans leurs données et ils ont vu en fait qu'ils en avaient d'autres, en fait qu'il y avait d'autres aussi, eux aussi avaient pris des mesures sur des planètes qui comme ça orbitaient très vite autour de leurs étoiles. Donc après on les a appelés des Jupiter chauds parce qu'effectivement ce sont des planètes en gros de la taille de Jupiter qui tournent très très vite proche de leurs étoiles, donc ils sont très chauds. Ça a été les premières qu'on a trouvées parce que la méthode qu'on a dite là, la méthode des vitesses radiales qui mesure le déplacement des étoiles, elle est plus sensible si la planète est massive et si elle bouge près de l'étoile. Donc effectivement, c'était les plus faciles à trouver. Après les autres découvertes qu'on a fait maintenant, on sait que c'est assez rare en fait comme objet. C'est moins d'1% des planètes qu'on a trouvées actuellement qui sont des Jupiter chauds. Et j'imagine que plus on trouvera d'autres étoiles, plus la proportion de ces Jupiter chauds deviendra petite en fait. Ça montre juste que ce sont des Jupiter qui se sont formés plus loin et qui se sont déplacés pendant leur formation, qui se rapprochent de l'étoile. On a découvert comme ça sûrement la migration, le fait que les planètes se déplacent dans le disque pendant qu'elles agrègent de la matière et du gaz. En fait.
Ça remis en cause, pas nos croyances, mais ce qu'on pensait sur la formation des planètes à l'époque. C'est-à-dire que la formation d'une planète qui tourne en 4 jours aussi grosse autour de son étoile, ça ne pouvait pas se former. Et ce que disait Isabelle, c'est que ça n'existe pas. Donc ils ont trouvé quelque chose qui n'existait pas, donc...
Donc je crois qu'après j'avais cherché parce que moi j'ai travaillé sur l'activité stellaire et je crois que j'avais voulu remonter un peu dans le temps ce qui s'était fait avant. Et effectivement pendant quelques années après cette découverte, il y a eu des papiers de plusieurs auteurs pour dire non, c'est pas possible, c'est pas une planète, c'est l'activité de l'étoile qui fait ça. Comme on regarde un spectre, on peut regarder des raies de l'atmosphère de l'étoile, on peut en apprendre beaucoup sur l'étoile aussi avec cette méthode-là. Donc ça a duré pas mal de temps jusqu'à ce qu'on trouve une autre planète qui... on la retrouve par cette méthode-là, en vitesse radiale, on mesure son déplacement. Mais aussi, là, on se trouve en plus dans la configuration où la planète passe entre l'étoile et nous. Et donc, on voit une baisse de luminosité de l'étoile. Donc là, c'est la première planète découverte en transit. Et donc, en fait, ça confirme l'existence des exoplanètes. Enfin, s'il y avait encore un peu des doutes pour certaines personnes que c'était de l'activité de l'étoile, là, on voit le déplacement de l'étoile et on voit en plus l'objet passer devant. Donc là, c'est vraiment la confirmation que ces Jupiter chauds, ils existent en fait.
L'identification en 1995 de 51 Pegasi B marque un vrai tournant en astronomie et ouvre un tout nouveau champ disciplinaire. Depuis, notre vision de l'univers a changé et de nouvelles formes de systèmes planétaires ont été découverts et ont remis en cause de nombreuses hypothèses en planétologie. Cette magnifique découverte de Michel Mayor et Didier Queloz prouve une nouvelle fois que la science peut nous surprendre à l'endroit où on l'attend le moins. Ici, dans l'Observatoire de Haute-Provence, qui fut sauvé de la fermeture grâce à l'audace et à la détermination d'un petit groupe de scientifiques.